mia.
Oh merde, Divine qui arrive avec une paire de lunettes noires et une voiture sport décapotable.
La Smala.
La Smala.
Vous connaissez pas ces gens-là. Alors ça peut être bien comme ça peut être moche.
Et le mouflé, hein, qui n'y peut rien.
L'enfant va savoir que c'est sa chaise.
La Smala.
Bonjour ou bienvenue, c'est la Smala jusqu'à 11h et à l'évocation du sujet qui va nous occuper jusqu'à 11h, beaucoup de gens comme ça tout autour de nous se sont confiés et ont eu ce sentiment, dit ou pas dit d'ailleurs, un jour que leurs parents n'étaient peut-être pas les leurs et qu'ils avaient été adoptés. Tout ça, ça part d'un détail bête, tout d'un coup il n'y a pas de photo dans l'album de famille, il n'y a pas de photo de maman enceinte. Tiens, c'est bizarre, il y en a de mon frère, il y en a de ma sœur, la grossette, mais moi je suis nulle part, tiens, c'est bizarre. Et à ce moment-là, le petit train de pensée se met à fonctionner et on se demande, est-ce qu'on n'a pas été adopté ?
Et ce qui est surprenant avec cette question, c'est que même quand il y a la photo de la maman enceinte, ça n'empêche pas de poser la question.
C'était peut-être un coussin qu'elle avait. Alors ça, c'est le premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, il y a ceux qui ne remettent pas en question la filiation. Mon papa et ma maman sont vraiment mon papa et ma maman. Mais quand même, j'aimerais bien changer de famille, provisoirement ou définitivement. Je voudrais changer de famille. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Et puis enfin, ceux qui n'ont pas choisi, mais ont été sortis de leur famille parce qu'elle dysfonctionnait. Et on entendra à travers les écrits de ces enfants qui sont placés soit en famille d'accueil, soit en foyer, combien il est difficile et combien on regrette et on a de la peine à s'arranger avec cette rupture, avec sa famille de sang. Donc trois cas de figure, on va les aborder jusqu'à 11h avec tout de même un peu de musique pour commencer, histoire de vous laisser réfléchir à quelle case, dans quelle case vous étiez. À tout de suite.
Of all the boys I've known and I've known some. Before I first met you, I was lonesome. But then you came inside, and my heart grew alive, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me.
By mere mystician, please let me explain. By mere mystician, means you'll run. By mere mystician,
ma maman si j'étais adoptée. Je lui ai demandé s'il y a des parents qui adoptent des enfants qui disent pas qu'ils sont adoptés. Alors peut-être que maman est en train de me dire mais que c'est pas vrai.
Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu, ta maman ?
Que c'était sûr qu'elle était ma maman et que c'était sûr que mon papa était mon papa.
Et qu'est-ce que t'en penses maintenant ?
Bon, maintenant je suis sûre que ma maman c'est ma maman et mon père mon père. De toute façon, j'étais déjà convaincue que c'était mes parents.
Il était déjà convaincu, n'empêche que ça va mieux en posant la question.
Ah ben, il a quand même posé la question.
Est-ce que c'est un passage classique de l'enfance, point d'interrogation, un espace d'ailleurs, qui prend plus ou moins d'importance selon les individus, bien évidemment. On appelle ça, on le disait, concept freudien, le roman familial, Martine Galland.
Alors, c'est vrai qu'on peut être surpris quand on entend cette question, puis quand on la lance autour d'une table, à peu près tout le monde oui. a un souvenir, une histoire qui fuse. Certains se sont posés la question pendant des années durant leur enfance, d'autres brièvement, ou alors les ex-enfants devenus parents ont été hyper troublés d'entendre la question. Quoi qu'il en soit, on appelle ça le roman familial, on ne le savait peut-être pas, mais nous avons un guide ce matin en la personne de Laurence Zimmermann. Elle est psychologue et psychothérapeute. Elle travaille notamment avec des familles.
Alors le roman familial, c'est un concept qui a été en fait élaboré par Freud. Il avait constaté que certains de ses patients avaient imaginé quand ils étaient enfants que leurs parents n'étaient pas leurs vrais parents ou que leur père n'était pas leur vrai père. Donc ils avaient été adoptés. Alors c'est un concept qui a été repris par d'autres auteurs, qui a été élargi. Et l'idée de base, c'est qu'à un moment donné, l'enfant donc, idéalise ses parents, il s'identifie à eux. Et avec l'âge, il développe un sens critique. Il compare ses parents à d'autres parents, il a des amis, il voit d'autres familles. Et il s'invente une histoire comme quoi, finalement, peut-être il a été adopté ou peut-être ses parents ne sont pas ses vrais parents.
J'essayais d'aller à la recherche, de trouver des... Enfin, je voyais des indices qui pouvaient me dire que je ne faisais pas partie de cette famille.
C'était leur demander « Est-ce que je suis adoptée ?»
Non, la question n'était jamais aussi directe. C'était plutôt « Est-ce que vous m'avez toujours connue ?» ou bien « Est-ce que vous vous rappelez vraiment de moi quand j'étais tout petit ?» ou une sorte d'enquête policière, comme ça, c'était pas... J'allais pas dévoiler la vérité ou le secret que j'avais au fond de moi, j'allais pas l'ouvrir comme ça directement.
Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'enfants ?
Alors il semblerait que oui, il semblerait que la plupart d'entre nous avons imaginé un jour ou l'autre, avons construit ce scénario, tout en sachant que peut-être c'est pas vrai, que c'est simplement une idée comme ça, que nos parents effectivement ne sont pas nos vrais parents.
Quand j'en parlais, quand je thématisais la chose, on a l'esprit très vif comme ça pour essayer de déceler si dans cette réponse-là, il n'y a pas justement... une nouvelle couche de peinture pour cacher la vérité. Même s'ils me disaient que j'étais justement, effectivement, leurs enfants, j'analysais ça comme des manières de me cacher encore plus la vérité. Ça, ce sentiment-là, je m'en rappelle très bien. Ouais. Et puis après, même, on ressort de la discussion avec un sentiment renforcé qu'effectivement, il nous cache encore plus et encore mieux et avec des stratégies encore plus raffinées et la vérité.
J'avais dit à mes parents un jour que de toute façon, c'était pas eux mes parents. Voilà. Donc... j'avais pas forcément ma place, et puis s'ils se mettaient en colère contre moi, mais de toute façon, de quel droit, quoi, c'était pas eux, mes parents. Moi, j'avais été adopté, quoi. Mes vrais parents, c'était pas eux. J'avais été adopté, qu'est-ce que j'avais pris? Je crois que je parlais de Terre des Hommes. Un enfant d'adoption de Terre des Hommes.
Mais vous croyiez, enfant, à cette histoire, ou pas?
Si, je me suis monté... Totalement pas, c'est ça, c'est un peu comme pour le Père Noël, quoi. Donc, non, il y avait un peu ça, je m'étais un peu monté quand même le bateau, je m'étais forgé une sorte une autre vie, quoi. Mais pas très clair, j'ai jamais visualisé dans des fantasmes quels auraient pu être mes parents. Je voyais bien que j'avais pas les yeux bridés, j'avais pas la peau noire, donc c'était quand même un peu plus difficile à justifier d'une adoption chez Terre des Hommes, quoi.
Laurence Zimmermann, imaginez que l'on est un enfant adopté, ça correspond à À quel passage dans le développement d'un enfant ?
Alors, ça correspond au moment où, justement, l'enfant commence à avoir un regard plus réaliste par rapport à ses parents et peut ressentir à la fois de l'admiration, mais aussi de la colère contre eux. Et comme c'est pour lui des sentiments qu'il a de la peine à faire cohabiter, alors il se réfugie dans une histoire. Et il se réfugie dans l'idée que s'il avait été élevé par d'autres parents, justement les siens, on ne l'aurait pas frustré comme ça, on l'aurait aimé davantage. Donc ça se passe entre 5, 6, 7 ans, enfin, et parfois ça dure jusqu'à la préadolescence.
Donc en gros, entre 5 et 11 ans, c'est la période durant laquelle ce genre de fantasme vient à l'esprit des enfants.
Voilà, tout à fait. Hein.
Certainement duré quelques années. Je ne me rappelle pas d'un moment où ça se soit arrêté de manière claire, mais je pense que ça s'est estompé. Et puis maintenant, à l'âge adulte, je me rends bien compte que c'est complètement mythique, en fait. C'est complètement illusoire. C'est peut-être un passage, quoi, qui fait partie de la constitution de l'identité. Est-ce que d'où je viens ? Ça, c'est une question fondamentale. Puis elle doit passer. Ah bon, c'est cet homme et c'est cette femme. Et puis on doit mettre ça à l'épreuve. Bah, une fois qu'on a été mis au monde biologiquement, tout à coup on se nourrit d'autre chose. Hein. C'est plus seulement les parents, mais c'est aussi de plus en plus autre chose. Je crois que pour chaque pas en avant, il faut aussi lâcher des choses en arrière. Ça fait peut-être partie de ce processus. Hein.
Mais c'est une façon de se distancer de l'autorité de ses parents, de mettre un peu de distance entre lui et eux, et d'apaiser peut-être les conflits qui sont à l'intérieur de lui. Enfin... Donc c'est un premier pas, en quelque sorte, vers l'autonomie, vers la séparation. Voilà, et c'est vrai que c'est intéressant pour les parents de savoir que tout enfant a un imaginaire et que face aux frustrations, il peut avoir recours justement à cet imaginaire, et tant mieux pour lui.
Moi, je pense qu'il y avait peut-être une histoire de rébellion par rapport à ses propres parents. Et puis, dans mon cas, peut-être aussi une histoire de ne pas avoir su ou pu prendre une place. C'est-à-dire que la place que mes parents m'avaient donnée ne me convenait pas. Quoi. Voilà. Donc, à la limite, ça donnait une justification au fait que, bah oui, c'est normal qu'ils ne me donnent pas cette place parce que ce n'est pas mes vrais parents. Mes vrais parents me donneraient cette vraie place à laquelle j'aspire. Quoi. Voilà.
Comment eux ont réagi quand vous avez dit « De toute façon, vous n'êtes pas mes parents, j'ai été adopté ». Vous avez le souvenir de leur réaction ?
Ouais, il n'y avait pas forcément que de l'amusement, quoi. Et, non, ça, je crois que ma mère, ça l'énervait quand même, que je puisse mettre ça en doute. Ça pouvait quand même l'énerver, quoi, que je dise ça.
Quand cette question apparaît, le premier réflexe est de dire « si l'enfant n'est pas adopté, évidemment, tu es mon enfant, mais peut-être que ça ne suffit pas ».
Alors, d'une manière générale, les parents doivent savoir que l'enfant commence à poser ces questions, peut-être parce qu'il est justement un peu en conflit avec eux. Donc, ils peuvent parler un petit peu de ça, non ? C'est-à-dire, est-ce que des fois, ça t'arrive d'être fâché avec nous ? Ou bien, commencer à parler pourquoi l'enfant est parti dans l'imaginaire ? Pourquoi pas ? Enfin, mais ils doivent surtout pas s'inquiéter. Enfin, je veux dire, c'est une construction justement qui permet, enfin, d'éviter parfois le conflit ou qui permet à l'enfant de se mettre en colère. Et c'est vrai que l'enfant peut aussi avoir peur d'être en colère contre ses parents. Est-ce qu'ils vont plus l'aimer ? Est-ce qu'ils vont l'abandonner ? Donc c'est une façon de jouer un peu avec les relations. Donc ce n'est pas à prendre au sérieux, ça n'a rien d'inquiétant, c'est un processus, comme vous l'avez dit, qui est plutôt normal. Peut-être c'est aussi une façon de leur demander s'ils l'ont vraiment désiré, s'ils l'aiment vraiment, eux qui peuvent par ailleurs à certains moments tellement le frustrer.
Moi, ils m'ont aussi demandé, puis j'ai dit non, mais je vous ai vu naître, je vous ai vu dès la première seconde, j'ai vu apparaître votre tête, je vous ai vu naître, je vous ai vu venir au monde, donc c'est sûr que vous êtes... Je ne vous ai pas quitté des yeux depuis, donc
ça crée quel sentiment quand ses propres enfants posent la question?
En tout cas, c'est une question qui ne me choque pas. Comme je me la suis posée, elle ne m'étonne pas. Puis j'essaie d'y répondre le mieux possible, j'essaie d'être le plus rassurant possible, d'être le plus... de donner aussi une réponse qui soit vraie. Enfin, j'essaie de donner la réponse la plus concrète, la plus palpable, comme ça.
Qu'en est-il de l'enfant qui dit « moi, je préférerais être dans une autre famille ».
Moi, je pense que ça vaut la peine. Bon, il y a des cas qui peuvent être extrêmes, mais même dans une vie où il y a peu de conflits, où il y a... Enfin, ça peut toujours être intéressant quand même de lui poser la question pourquoi. S'il dit ça, c'est une façon de poser d'autres questions. C'est une façon de parler de ses frustrations sans trop les nommer. C'est une façon de dire, j'aimerais bien, je sais pas, que vous vous disputiez moins souvent, ou j'aimerais bien avoir plus d'argent de poche, ou j'aimerais bien être comme dans cette famille, avoir tout ce que je veux, ou j'aimerais... Enfin, voilà, c'est une façon de dire les choses sans les dire. Donc ça amène forcément, je pense, des questions, et c'est bien de les poser.
J'aimerais changer de maman. Parce que ma maman, elle est un peu sévère. Par exemple, à chaque fois, elle me gronde toujours. C'est pas très drôle. J'aime des fois qu'elle me fait des massages, des cadeaux. Quand elle dit oui, mais si elle dit non, je suis pas très contente.
Tu voudrais une maman comment, alors?
Avec les cheveux longs, qui est gentille, qui est jolie, qui nous lit des histoires, qui nous donne des bonbons, qui nous achète des cadeaux.
Mais tu crois que ça existe, les mamans comme ça? Il y en a beaucoup?
Oui. Par exemple, ma grand-maman, elle est gentille avec moi parce qu'elle m'aime beaucoup et je l'aime bien. C'est pas pour les cadeaux, c'est juste que j'ai envie de changer de maman.
Mais pour toujours?
Non. 3 jours et voilà, après je retrouve ma vraie maman.
Et pourquoi tu voudrais retrouver ta vraie maman?
Parce que quand même je l'aime bien, elle est aussi quand même gentille et tout.
Ça peut aussi parler de la jalousie que l'enfant peut avoir par rapport à ses frères et sœurs. C'est une façon aussi de mettre à distance ses frères et sœurs et de vivre moins intensément les sentiments de jalousie.
C'est ton frère?
Oui. Moi...
Tu veux aussi changer de frère?
Oui, j'ai envie de changer de frère aussi. Parce que mon frère, il est un peu embêtant. À chaque fois, il me dit un mot. Il me dit aussi gros bébé. Et je suis pas très contente.
Et tu voudrais changer définitivement de frère?
Aussi 3 jours.
Tu voudrais un frère comment?
Un frère gentil, joli, et qui s'appelle De Neuval.
Arthur, Zoé disait tout à l'heure, je veux changer de maman et je veux changer de frère. Et toi, est-ce que tu voudrais changer de maman et changer de sœur?
J'aimerais bien changer de sœur et pas de changer de maman.
Tu peux choisir une autre sœur. Tu prendrais une sœur qui est comment?
Belle. Faut pas qu'elle tape.
Ah, mais c'est ta sœur qui vient de te souffler.
Oui.
Vous avez voulu, vous, à un moment donné de votre vie, de votre enfance en tout cas, ou adolescence, Jérôme, vous avez voulu changer de famille, ou en tout cas espérer une autre famille?
Je ne sais pas si c'était espérer une autre famille, mais c'est en tout cas renier ma famille. Quand on avait des crises, je disais, Tu sais, si je t'énerve, c'est pas moi qui ai demandé à venir au monde. Ça, c'était plus jeune, mais enfin voilà, ouais, j'ai balancé ça. Donc finalement, cette histoire d'adoption, c'est un peu dans ce sens-là.
Vous êtes papa aujourd'hui, Jérôme. Est-ce que vos propres enfants vous disent, de toute façon, moi j'étais adoptée?
Non, alors j'ai jamais, mais jamais. Non, non. Plutôt le contraire, quoi, des... Deux filles qui me témoignent quotidiennement d'une manière très puissante, très forte de leur attachement. Je t'aime, papa. Enfin, voilà, c'est papa. Alors, est-ce que j'ai pas eu droit à ce refrain-là de l'adoption parce que je suis séparé de leur mère? Donc, peut-être tout d'un coup, il y a. Les enfants, voyant que le couple a explosé, donc vont essayer de se raccrocher à ce qu'il en reste, quoi. Et vont pas jouer justement avec ça.
Laurence Timmerman, dans votre pratique de thérapeute et de thérapeute de famille, est-ce que vous rencontrez souvent cette notion de roman familial ?
Alors, ça arrive qu'il y a des gens qui se posent réellement la question de savoir s'ils ont été si leur père était leur vrai père. Ça m'est arrivé, des gens qui me racontaient l'histoire qu'ils n'avaient peut-être jamais osé dire à personne, qui pensaient que leur vrai père, c'était justement le voisin d'en face qui s'occupait beaucoup d'eux. Donc ça, c'est une chose, et c'est vrai que c'est difficile de le remettre en question. Nous, on ne sait pas plus qu'eux, enfin, à moins qu'ils osent poser la question, ce qu'ils, généralement, n'osent pas faire. Ça arrive aussi, souvent, moi, ça m'est arrivé d'entendre des personnes qui ont été adoptées, qui se disaient que l'histoire qu'on leur avait racontée n'était pas la vraie histoire, que... Et là, de nouveau, enfin, on ne sait pas quelle est la part de vérité ou quelle est la part du fantasme. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ses parents ne les avaient pas vraiment abandonnés? Enfin, voilà, donc il y a toujours... oui, il y a des constructions de romans familiales pour tout le monde, non? Enfin, et ça arrive dans les histoires qu'on entend dans nos thérapies. Il peut y avoir les deux parents qui sont mis en cause. Donc l'enfant, là, s'imagine avoir été adopté, mais il peut y avoir aussi le scénario où l'enfant... imagine que, par exemple, son père n'est pas son vrai père et que lui, par exemple, aurait un père beaucoup plus idéal, un homme illustre parfois. Et bon, ça correspond plus à la phase, je dirais, oedipienne dans laquelle l'enfant est. Et c'est une manière pour lui, entre guillemets, d'éjecter son vrai père et de penser, de toute façon, tu n'es pas mon vrai père. Ce mythe, disons, de l'enfant, on le retrouve aussi dans beaucoup d'histoires, par exemple, même dans la mythologie, dans certaines légendes, par exemple l'histoire d'Hercule, dont le père était Zeus. Donc ça, c'est des choses qui se retrouvent beaucoup dans la légende, dans les romans et dans la mythologie, surtout quand il est question de héros. L'histoire des héros est souvent que le père est un père illustre ou divin. Et il n'est pas tout à fait donc homme et pas tout à fait divin, hein, il est un peu des deux.
Mon père était un peu spécial parce que bon, il marchait quand il très difficilement entre deux cannes, il souffrait le martyr, mais il cachait cette souffrance par un humour tonitruant, un côté bout en train. Qui fait que les copains le disaient d'un ton un petit peu méprisant, c'est un rigolo ton père. Bon, comme les enfants sont parfois un peu conformistes, il m'est arrivé d'avoir un peu honte. Et j'ai répondu à cette honte d'une manière qui est un peu spéciale peut-être. C'est-à-dire qu'un jour j'ai dit, mais en fait, ça n'est pas mon vrai père. Mon vrai père, c'est le roi Baudouin de Belgique. Je suis le fils naturel du roi Baudouin. Mais la reine Fabiola, à ma naissance, a voulu me faire éliminer par ses tueurs à gages. Et alors, voilà, l'homme que vous connaissez, qui était le meilleur ami du roi Baudouin, a accepté de se faire passer pour mon père. En fait, c'est mon garde du corps. Et s'il boite comme ça, s'il ne marche quasiment plus, c'est qu'il a pris une balle dans la jambe pour me sauver la vie. Alors, d'une part, je le reniais biologiquement, mais je le reniais tout en faisant de lui un héros. Parce que je voulais qu'on l'admire, je voulais pas qu'on le plaigne, parce que lui ne supportait pas d'être plaint. Mais il aimait bien qu'on l'admire.
Laurence Timmerman, le roman familial, me disiez-vous, ne concerne pas que les enfants.
Alors oui, donc il y a des auteurs qui ont développé cette idée et qui, je pense, est assez vrai, que toute la vie, on se construit des romans familiales dans des moments de frustration. Par exemple, il arrive qu'avec ses enfants, qu'on soit parfois déçu soi-même et qu'on se dise, tiens, si j'avais eu un autre homme dans ma vie, peut-être j'aurais pas un enfant comme ça, mais il serait plus, entre guillemets, selon mon propre désir. Et on se construit aussi des romans familiales, enfin ce qu'on pourrait appeler roman familial, dans le cadre, je ne sais pas, de frustration professionnelle, de frustration sentimentale. Si j'étais partie à ce moment-là comme j'en avais envie, il ne me serait pas arrivé telle et telle histoire. Enfin, donc finalement, ce n'est pas seulement l'enfant qui élabore des romans familiales. Et d'ailleurs, je pense que les livres ou les histoires, de manière générale, naissent souvent de ce concept de roman familial. C'est une façon de se projeter dans quelque chose, dans une autre vie.
C'est une façon de dire, avec des si, on refait le monde, avec des si, je refais mon histoire, elle pourrait être mieux.
Oui, mieux et surtout plus proche de mon idéal, comme l'enfant hein, qui imagine des parents plus proches de ce qu'il aimerait avoir comme parents. Donc, de la même façon, on se construit une histoire qui aurait été bien plus proche de ce qu'on aurait aimé si on n'avait pas eu tel mari ou si on n'avait pas eu tel, je ne sais pas, enfin si on n'avait pas accepté telle opportunité de travailler là, enfin, si on avait fait d'autres choix.
Des heures de travail en perspective, si on commence à s'imaginer « et si », c'est infernal.
Et puis surtout, si on le raconte à ses copains.
Oui.
Mon papa, écoute, c'était le roi, mais ça n'a pas pu se faire, il n'a pas pu le dire comme ça.
C'est extraordinaire,
le
cette histoire.
Le plus beau, c'est que cet homme-là est devenu romancier.
Exactement. Donc, tout petit, il se faisait déjà des histoires dans sa tête. Et c'était un extrait d'un VIP que nous avions diffusé il y a quelques temps, à l'occasion de la sortie de son roman autobiographique « Le père adopté ». Vous avez peut-être reconnu, c'était Didier Van Kovelaert, le romancier qui s'est inventé un papa roi de Belgique. Exceptionnel. Alors, dit ou pas dit, d'ailleurs, cette envie de changer de famille, en tout cas, nous allons rester quelque part dans le sujet avec des enfants qui n'ont pas choisi de changer de famille, mais qui se retrouvent un jour dans une famille d'accueil ou dans un foyer. On les entendra à travers des textes d'enfants sortis dans un livre, après un peu de musique.
La Smala.
La Smala.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolie marguerite sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche
je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Auteur, compositeur, interprète, c'était Renan Luce, un choix de Laurent Pavia avec la lettre
La Smala.
Retour de La Smala dans quelques secondes, juste après cette information routière.
Infotrafic, RSR.
L'autoroute Lausanne-Martigny est surchargée en raison des départs en vacances en direction du Valais. Un bouchon est toujours en place entre Chèbre et Vevey suite à un accident. Sur l'autoroute Bern-Spitz, on circule au pas à partir de Thun Sud et l'échangeur de Lattigen en direction de l'Oberland bernois. La route principale Spitz-Kandersteg est également surchargée. Et puis en Valais, il faut compter environ 30 minutes d'attente pour traverser le tunnel du Lötschberg en arrivant à Goppenstein, ainsi qu'une heure à Réalpes pour traverser le tunnel de la Fourca.
Et on continue d'écrire, Martine Galland, l'histoire de famille avec des si, avec des mais, enfin tout ça, on s'est imaginé déjà beaucoup de choses si on changeait de parents, si mes parents n'étaient pas les mes parents, enfin tout ça, c'est le roman familial dont on parle depuis tout à l'heure, et qui est une manière, on le redit, hein, d'autonomiser l'enfant, c'est une sorte de passage possible, mais pas obligé d'ailleurs.
Hein, voilà ce que disait Laurence Timmerman, qui est psychologue, psychothérapeute, tout à l'heure, bah, c'est que c'est une phase où on cesse d'idéaliser ses parents et on se dit, ben... peut-être j'aurais pu avoir mieux. c'est eux. Alors, on a parlé jusque-là des enfants qui ne sont pas adoptés et qui grandissent au sein de leur famille d'origine, auxquels il est facile de parler de leur origine et de répondre oui, c'est moi ton papa, c'est moi ta maman. Ce qui n'empêche pas certains de rêver, d'imaginer, de s'inventer des histoires parallèles. Mais il y a une autre manière de s'inventer des histoires parallèles qui est aussi un concept qu'on appelle famille imaginaire. Et là, ça n'a plus rien à voir du tout. C'est tout autre chose et ça s'utilise parfois dans le cadre des thérapies de famille.
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une pratique qu'on utilise dans nos thérapies parfois pour des gens qui ont une famille avec laquelle les liens sont rompus pour de très bonnes raisons, hein, soit dans des histoires de violence ou d'abus, enfin, et pour lesquelles une famille manque. Donc parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on élabore ce qu'on appelle un génogramme imaginaire où on propose aux gens de mettre à la place du père, de la mère, du frère, de la sœur ou de la tante, enfin, des personnes qu'ils connaissent réellement et qui pourraient imaginer comme étant ben voilà, les personnes auxquelles ils pourraient s'identifier. Enfin, le mieux, voilà, cette personne, ça serait pour moi la mère que j'aurais aimé avoir. Donc, c'est pas des personnes imaginaires, c'est des personnes réelles, mais le généogramme ou la construction de la famille devient imaginaire.
Donc, imaginer la famille que l'on n'a pas, c'est une démarche importante.
Alors, imaginez la famille qu'on n'a pas, et ce qu'on voit souvent ben, dans beaucoup de situations de gens qui ont vécu une famille justement maltraitante, c'est que c'est eux peut-être qui imaginent le plus construire la famille de rêve, enfin la famille qu'ils n'ont pas eue et pour lesquelles c'est très important d'avoir une famille. Et c'est parfois très difficile parce que peut-être la construction est trop... Enfin, le parent rêvé est trop idéalisé. Hein.
Voilà. Voilà, c'est un outil thérapeutique décrit par Laurence Zimmermann, donc thérapeute de famille, qui travaille, on l'a compris, autour d'un concept de famille imaginaire.
Alors en fait, c'est une des choses qu'elle utilise dans ses différentes démarches de psychologue, psychothérapeute et de thérapeute de famille.
Et puis il y a des enfants à qui on demande, comme ce sera le cas dans le dernier sujet, d'écrire ou de dessiner leur famille. Alors des familles avec qui ils ont eu plaise et bosse. Est-ce qu'ils ont parfois envie de s'en imaginer une autre? Ça, c'est une question que nous allons pouvoir poser, Sarah Diren. Est-ce qu'effectivement, quand on a une famille qui ne va pas, est-ce qu'on veut aussi en changer?
Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a toutes les raisons, hein, les raisons du monde de vouloir changer de famille parce que celle-ci, à un moment donné, ben, dysfonctionne et que l'enfant doit être placé dans une famille d'accueil, un foyer ou autre? Alors, il y a un livre magnifique, hein, qui vient de paraître aux éditions Ouverture. Désolé si ça gêne, sous-titré De l'enfance cabossée à la famille rêvée. C'est coédité par le service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud pour célébrer leurs 50 ans d'existence. Alors c'est un livre qui donne la parole à des enfants, à des adolescents qui ont été placés. Il y a une quarantaine de textes, des dessins aussi qui ont été réunis par Gérard Peton qui est assistant social au SPJ d'Yverdon. Ce sont des textes forts, vous allez l'entendre. C'est un cri d'amour, hein, face au père, face à la mère, et c'est vraiment unanime. J'ai donc demandé à Gérard Peton comment se faisait-il que ces enfants et ces adolescents qui ont pourtant toutes les raisons du monde de vouloir changer...
Qui ont été malheureux, voilà, voilà, sincèrement malheureux.
Sincèrement. Et bien pourquoi, au contraire, ils leur disent à ses parents « je t'aime ».
Peut-être par un certain confort, c'est-à-dire que quand on vit dans une famille normale, où il n'y a pas trop de problèmes psychosociaux, où il n'y a pas trop de difficultés financières, où il n'y a pas trop de problèmes de lien familial et d'attachement, finalement, c'est vrai qu'on peut développer cette espèce de confort qui, effectivement, qui permet de dire « ouais, moi, ma famille... elle me fatigue un peu, j'aimerais quand même en avoir une autre, parce que j'ai des copains, moi leurs parents, ils sont quand même vachement mieux que les miens. » Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose effectivement de l'ordre du confort qui permet de dire ça, oui.
Alors en revanche, Gérard Peton, ce que j'ai senti, en tout cas et pu lire dans ce livre, c'est un cri d'amour absolument extraordinaire de ces enfants, petits, grands, via les dessins aussi, vis-à-vis de leurs parents, parfois aussi de leur référent social, c'est-à-dire de leur assistant social, mais avant tout de leur père et de leur mère.
Oui, un cri d'amour sans nuance, vous avez raison. Tous les textes disent d'une façon ou d'une autre l'amour que les enfants ont pour leurs parents, à l'exception peut-être d'un texte qui, quand même, d'un enfant qui quand même dit à ses parents « j'aimerais bien revenir chez nous, mais il faut que vous compreniez que vous avez, vous, un travail à faire pour que je sois plus maltraité chez vous. » Et ça, c'est la condition pour que je puisse revenir dans la famille.
Papa et maman, j'espère tellement qu'une fois je pourrai vous voir, vous faire un câlin, vous parler, vous dire que je vous aime et que j'aimerais être avec vous. Mais avant, il faut vous guérir. Allez voir un docteur et expliquez-lui vos problèmes. Faites quelque chose pour qu'on puisse être ensemble. Je suis triste d'être loin de vous, mais j'ai pas le droit d'être tapée. Il faut apprendre à bien s'occuper de moi. Je suis votre petite fille et je vous aime. Shena, 7 ans.
Mais c'est le seul, effectivement. Tous les autres, ce sont des cris d'amour sans nuance. Et c'était un petit peu peut-être l'objet de ce livre, c'était de permettre à des professionnels de l'enfance, comme nous, les enseignants, les pédiatres, que sais-je, mais aussi au public, c'est-à-dire à des parents, d'entendre ce que disent des enfants qui sont placés d'eux, de leur placement, de leur vie quotidienne, de leurs tracas, de leurs soucis. Et puis effectivement, ce qu'en ressort, c'est « on m'a séparé de ma famille ». C'est-à-dire, on a cru me protéger et en réalité, j'ai plus mal aujourd'hui que quand j'étais chez mes parents.
Tu me manques tellement que j'en pleure par moments. Je voudrais te revoir pour ne plus être plongée dans le désespoir. Je te vois partout avec ton sourire tout doux, tes yeux étincelants qui brillent comme des étoiles filantes. Te revoir près de moi m'apportera beaucoup de joie. Tous les mots que tu me dis sont si beaux et si gentils. Pour te dire que je t'aime et que tu es dans mes veines, pour toutes les nuits et les jours, en fait, je t'aime pour toujours. Nano, 17 ans.
Oui, parce que l'idée, à la base, Gérard Petton, c'était non pas de parler, parlez-moi de votre père ou de votre mère, mais l'idée était, voilà, vous avez carte blanche, mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, c'est ça. C'était ça, le, entre guillemets, le mot d'ordre.
C'était le mot d'ordre, c'était la seule consigne. Dites-nous, écrivez-nous quelque chose sous la forme de « j'aimerais dire à ». Alors, n'importe quoi, à n'importe qui, mais dites-nous ce que vous aimeriez dire. Le résultat, je propose qu'on le dise là quand même, c'est une parole libre. C'est-à-dire que tous les textes ont été intégrés dans le livre, brut, sans aucune modification. On a bien évidemment fait les corrections orthographiques qui s'imposaient parce que, voilà, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe ne sont pas toujours parfaits. Mais en tout cas, les textes n'ont pas été modifiés. Seules des corrections donc orthographiques ont été faites. Voilà, et donc la seule consigne, c'était « j'aimerais dire à ». Et puis on voit que ça a fait florès, enfin, ces enfants ont trouvé des milliers de choses à dire, y compris un qui dit d'ailleurs « j'aime pas écrire ».
J'ai pas envie d'écrire. Écrire, c'est énervant. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Quand je suis tranquille, je suis heureux. Je vais dehors, je joue au foot et je gagne 6 à 7. Florian, 10 ans.
Effectivement, les enfants, ils sont un petit peu cabossés hein, par la vie. La famille ne va pas toujours très très bien. Alors peut-être, effectivement, ils ne disent pas « j'ai envie de changer de parents ». En l'occurrence, ils le crient tellement fort, cet amour qu'ils ont pour leurs parents. Est-ce que c'est justement une façon de se raccrocher à la vie ?
C'est en tout cas une façon de dire « j'existe ». Ces enfants disent d'une façon ou d'une autre « on a voulu me protéger, mais en réalité, en m'éloignant de mes parents, on me fait quand même du mal ». Donc c'est une façon pour eux de dire « j'existe, j'ai besoin de dire, moi, comment je vis cette histoire, comment je vis ce placement, c'est pour moi quelque chose de fondamental que de pouvoir l'exprimer ». Alors, bien évidemment que s'il n'y avait pas eu ce livre, ces enfants-là, heureusement, peuvent exprimer ces choses-là dans différents endroits, dans leur famille d'accueil, leurs institutions. Les institutions, on sait qu'il y a des forums de discussion où les jeunes sont amenés à dire ce qu'ils pensent d'eux, de leur placement, de leur famille, de leur histoire. Il y a des institutions, on les invite aussi à écrire. Enfin, on a vu par exemple la Maison des Jeunes à Lausanne qui vient d'éditer un livre, un CD avec des textes de rap. Donc partout un peu, ces enfants sont amenés à pouvoir dire ce qu'ils vivent. Là, c'est une façon de plus de leur permettre de dire « j'existe et je souffre ».
Une maman, ça ne se remplace pas. Une maman, c'est fait pour nous aimer. Notre maman, on peut toujours compter sur elle. Une maman, elle s'occupe toujours de nous et moi, je l'aime plus fort que tous les coquillages des plages. Que toutes les étoiles dans le ciel. Que tous les arbres des forêts. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est le sourire de maman. Et je l'aimerai toute la vie parce que c'est ma maman. Mégane, 10 ans.
On a le sentiment, en lisant ce livre, Gérard Petton, que ces enfants qui sont protégés de leurs parents, ou en tout cas de leur famille, protègent leurs parents, les excusent de tout, peut-être.
Oui, on peut avoir le sentiment que, effectivement, d'une certaine façon, ils exonèrent leurs parents des traumatismes ou des éventuels mauvais traitements dont ils ont pu être victimes. Et finalement, y a quelque chose qui est réparateur dans tout ça, c'est que symboliquement, nous, notre service, sommes un peu l'exutoire de tout ça. C'est-à-dire que les enfants finissent par dire plutôt « Ouais, tout ce qui m'arrive, c'est la faute à ces trois points d'assistance sociale du SPJ » parce que dire que ça serait la faute des parents, c'est quelque chose d'impossible, évidemment. Alors, si on a cette fonction d'exutoire, c'est franchement très bien. Après, il reste pas moins que l'enfant, lui, il vit quand même la séparation d'avec ses parents.
Est-ce que d'un point de vue tout à fait personnel, Gérard Petton, ça vous est arrivé, vous, enfant, de dire à vos parents « je ne suis pas votre fils, je voudrais changer de famille »
Alors, non seulement ça m'est arrivé de le dire, mais en plus, je l'ai vécu très concrètement. Et alors, si je raconte ça, c'est aussi, je ferai le lien aussi avec ma fonction aujourd'hui. Très concrètement, il se trouve que le hasard de la vie a fait qu'un jour, j'ai quitté ma famille d'origine pour rencontrer une autre famille qui est devenue un peu ma famille adoptive. Et tout ça s'est passé avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup de bonheur. Oui, j'ai dit plusieurs fois, j'ai eu le sentiment souvent que mes parents n'étaient pas des parents tels que je les aurais souhaité, parce que, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, je voyais des copains qui avaient des parents qui me semblaient beaucoup mieux que les miens. Et puis, il s'est trouvé que le hasard de la vie a mis une famille dans ma vie qui était une famille sans enfants, et j'ai vécu pendant 8 ans avec cette famille-là, dans laquelle j'avais un rôle, j'avais une place, j'avais un travail même. Aujourd'hui, ça ferait hurler si on disait que un enfant de 8 ans comme moi travaillait. Mais j'ai travaillé et j'en ai eu un bonheur immense. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je fais mon boulot avec beaucoup de travailleurs sociaux, SPJ, avec beaucoup de tranquillité, parce que l'enfant qui dort en moi est un enfant heureux. Moi, j'ai fait cette expérience de pouvoir vivre en dehors de ma famille d'origine, et je n'en ai vécu, non seulement je n'en ai pas vécu de traumatisme, mais en plus je n'en ai vécu que du bonheur.
Et vos parents aussi?
Alors, et mes parents aussi, sauf que mes parents probablement en ont vécu, eux, de la culpabilité. Ils le diront jamais, enfin, parce que c'est peut-être trop difficile à reconnaître, mais probablement que eux trouvaient ça un peu curieux que je vive, enfin, que j'ai décidé de vivre ailleurs que chez eux. Ils n'ont jamais eu franchement le courage de me dire, ou la puissance de me dire que ma place était chez eux et pas ailleurs, mais je pense très franchement que ça les a fait souffrir.
De vous voir toujours chez le voisin?
Bien sûr, bien sûr.
Oui, pour préciser, hein, c'est un voisin qui avait une boulangerie, et Gérard Petain, lorsqu'il était enfant, avait été fasciné par ce métier de boulanger et surtout par l'odeur du pain. C'est pour ça qu'il passait le plus clair de son temps chez le voisin.
Et qu'il avait changé de famille de manière totalement informelle. Hein.
Totalement.
Totalement. Donc c'est un livre, oui, c'est un livre touchant, franchement, avec des dessins, avec des textes d'enfants. Désolé si ça gêne.
Sous-titré « De l'enfance cabossée à la famille rêvée », et c'est coédité aux éditions Ouvertes par le service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud.
Maman, je ne change pas mon enfance difficile, car tu m'as toujours appris qu'il y avait bien plus faible, plus malheureux que soi. Cette vérité dans le timbre de ta voix a fait qu'aujourd'hui encore je n'ai rien oublié, car depuis tout petit tu n'as cessé d'aimer, cette chanson est pour toi. Tu s'es sacrifié pour moi, j'ai la chair de poule quand j'entends parler de Paul Cézanne, j'ai l'odeur de la fumée et la chaleur des flammes qui me remplit la tête. Purification ou tempête, maman. Wow, maman, ma reine et mon roi, à la fois, aïe, aïe, oh, maman. Wow, maman, personne d'autre que toi, aïe, aïe. Tu sais que je n'ai pas vraiment digéré la vie scolaire, même s'il nous disait que les lentilles nous donnaient du fer, je sais pas pourquoi plus tard. J'ai détesté les épinards, maman tu m'as appris à aimer la nature, tu nous as toujours emmenés, mais on n'avait pas de voiture. Tu connais les oiseaux, tu pêches à la main dans les ruisseaux, tu m'as dit que le monde comptait des gens différents, mais qu'ils avaient le même cœur, qu'ils avaient le même sang que nous. Maman merci pour tout, merci de m'avoir appris et montré que l'amour existait à l'air libre et même en milieu des tours. Ma mère, mon professeur, pour se regarder à l'intérieur. Maman,
Pierre-Paul Jacques avec Maman, et puis un merci tout particulier à Baptiste qui nous a prêté sa voix pour nous lire les textes de ses enfants. Émouvant s'il en est, désolé si ça gêne. Donc aux éditions Ouverture donc, et Société de protection de la jeunesse SPJ du canton de Vaud. On va se quitter non sans vous dire quelques mots de la semaine prochaine. Nous avons beaucoup parlé des pères et des mères ce matin. La semaine prochaine, nous allons essentiellement parler des mères, excusez-nous les papas, mais vous serez là en creux puisque nous allons parler de la surcharge des mamans. Est-ce que vous êtes toujours là aux côtés de votre douce pour la supporter, l'aider, l'appuyer? Vous rendez-vous toujours compte de sa fatigue? Point d'interrogation. Nous allons consacrer une heure à la fatigue émotionnelle et physique des mères. Elle s'appelle Violaine Guérito. Elle a écrit un livre sur ce sujet et nous l'entendrons la semaine prochaine, ainsi que quelques témoignages qui vous donneront une idée d'un quotidien si banal de femmes totalement surchargées.
Voilà, vous êtes un peu essoufflée, Marie-France. Dernier, enfin c'est même pas le dernier rendez-vous de la journée, de la soirée, puisqu'il est 18h30. Alors vous venez d'aller rechercher votre aîné, Marius, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et là, nous sommes dans une salle de gymnastique. Vous venez chercher votre fille, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est un peu le rituel de toute maman, au foyer d'autant plus, puisque on se dit que mère au foyer est égale à mère disponible pour tout. Et on commence à inscrire les enfants sur des activités à droite, à gauche. Et ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et heureusement qu'on a une voiture.
Alors Bastien, c'est votre dernier. Il a 3 ans et demi.
Oui.
Il est toujours avec vous.
Il est, oui, c'est mon porte-clés en fait. On l'emmène partout, mais il ne me porte pas les clés malheureusement.
Voilà, alors là maintenant on se dépêche, c'est ça, pour aller préparer le repas
à la maison. Alors, en principe, j'ai toujours un repas plus ou moins préparé et j'ai juste les finitions à faire. Donc effectivement, on court à la maison, on booste un petit peu tous les enfants en disant allez vite au bain, toi à la douche, toi en pyjama.
Et les devoirs?
Et les devoirs, bah c'est avant, si possible. C'est avant, sauf s'il y a grosse crise de larmes, parce que rien ne va plus. Il faut leur parler, il faut attendre que ça passe. Et puis, bon, ça, c'est chaque maman fait du mieux qu'elle peut. Voilà, quoi. Donc des fois, effectivement, c'est plutôt à 8 heures qu'on commence à finir quelques leçons, quelques devoirs, quoi. Et là, il y a mon petit dernier, par exemple, qui est tombé.
Extrait de ce qu'il vous sera possible d'entendre la semaine prochaine entre 10h et 11h.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way.
La voix toujours aussi étonnante d'Amy Winehouse, c'était Valérie sur la première, un choix de Laurent Pavia qui a illustré musicalement cette Smala depuis 9h30 ce matin, à la régie Carmen Algarada, à la réalisation Jean-Philippe Svalen ce matin, et puis Stéphanie Gocci qui, comme toujours, intercepte vos mails via rsr.ch sur la page de la Smala. Vous pouvez trouver toutes sortes de renseignements, mais vous pouvez aussi nous écrire. Et puis le 021 318 15 98 qui est notre numéro de téléphone. La semaine prochaine, nous serons là, promis, vous aussi, je l'espère. Merci de votre fidélité sur la première, il est déjà 11h.